France Info.
France Info Radio et Télé réunis comme chaque matin pour ce rendez-vous entre 8h30 et 9h. Bonjour Dominique Régnier.
Bonjour.
On va parler du rapport que votre fondation, la FODAPOL, vient de réaliser au sujet de 40 ans de terrorisme islamiste à l'échelle de la planète, à l'occasion évidemment des 4 ans des attentats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis. On accueillera dans quelques minutes le fondateur et directeur de l'Association française des victimes du terrorisme, Guillaume Denoy de Saint-Marc, qui va nous rejoindre. D'abord, cette étude, inédite sans doute par son ampleur, pourquoi l'avoir réalisé, pourquoi vous êtes plongé dans les chiffres des victimes sur toute la planète du terrorisme islamiste?
Parce que c'est une réalité dont on devine l'importance les uns les autres dans nos discussions, dans nos réflexions, sans être en mesure de la documenter. Il y a des sources, je ne serai pas long bien sûr sur les aspects techniques, mais il y a des sources éparses, très incomplètes, esquissées pour une année ou pour un mouvement terroriste. Mais jamais il n'avait été fait cet effort, et je comprends pourquoi maintenant, de les réunir dans une base commune, documentée. Et c'était au fond pour faire apparaître quelques faits, des vérités historiques, et documenter aussi précisément que possible ce dont nous pouvons dire que nous sommes sûrs s'agissant du terrorisme islamiste.
Quelques faits et quelques chiffres, on va en donner quelques-uns seulement si vous voulez bien. Ça représente 33 000 attentats commis sur la planète.
Nous, on en a recensé 33 769.
Voilà, pour être très précis.
Mais en fait, oui, on a des chiffres précis, ça peut paraître un peu curieux, mais c'est parce que c'est le résultat de cette... De ce recueil de toutes ces données qui, à la fin, nous permet d'établir des chiffres précis qui ne reflètent pas la précision de la réalité, mais ce que nous avons pu recueillir.
167 000 morts en 4 décennies. Et une évidence qu'il faut rappeler ici, c'est que la plupart des victimes du terrorisme islamiste sont avant tout des musulmans.
Absolument, ce sont très largement des musulmans qui périssent dans ces attentats, qui ont lieu pour la plupart dans des pays musulmans. C'est une violence qui a peu à peu progressé, qui s'est installée au cours de la décennie, depuis 1979, 2000, au cours des deux décennies, pardonnez-moi, 79-2000, on a une apparition de ce terrorisme, mais ensuite une espèce de déploiement, et il atteint une très grande intensité dans la période la plus récente, 2013-2019.
Renaud Dely. Peut-être au préalable, Dominique Régnier, pourquoi avoir choisi justement la date de 1979 pour faire commencer cette étude? Pourquoi est-ce que c'est à vos yeux une date qui est historiquement juste?
Alors, 1979 est une date retenue par les spécialistes du monde arabo-musulman et du terrorisme, parce qu'il y a eu l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS, parce qu'il y a eu la révolution iranienne qui lance une grande compétition d'influence entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, parce qu'il y a eu la prise d'otage à la grande mosquée de la Mecque, parce qu'il y a eu les accords de Camp David. Donc on a toute une série d'événements qui transforme en profondeur le monde arabo-musulman et font démarrer à la fois une islamisation des problèmes dans le monde arabo-musulman et une djihadisation de cette islamisation.
Deux premières décennies à l'issue desquelles, 2001 donc marque pour vous une vraie rupture avec une extension planétaire au-delà des pays musulmans qui étaient d'abord frappés, hein, 90% des victimes sont de pays musulmans, une extension à partir de 2001 et de l'attentat des Twin Towers.
Oui, alors il y a bien sûr, on s'en souvient les uns et les autres, des attentats qui frappent le monde occidental avant 2001, mais c'est vrai que là c'est un tournant, c'est la série d'attentats, il y a eu 4 attaques, la plus dure dans l'histoire du terrorisme connu, plus de 3000 morts, plus de 16000 blessés, et là il y a à la fois le signal d'une extension et d'une globalisation, et aussi l'incorporation du terrorisme djihadiste dans le réseau numérique. Ça c'est un aspect très important auquel nous consacrons nous une partie de ce travail, que de voir comment pour recruter, pour la propagande, pour médiatiser, pour organiser même à travers les applications téléphoniques comme Telegram par exemple, ou encore très récemment TikTok, l'application pour les adolescents qui a été créée en 2016, qui est investie par l'État islamique, eh bien on voit comment le numérique est un des facteurs de globalisation et d'intensification de cette violence.
Dominique Régnier, la France, dans ces vagues d'attentats, on voit que c'est le pays d'Europe qui est le plus touché depuis 40 ans.
Oui, c'est clairement le pays d'Europe le plus touché. 71 attaques. 42 attaques ont eu lieu entre 2013 et aujourd'hui. Donc le pic de la violence pour nous, c'est depuis 2013. Pratiquement la moitié de ces attaques en France depuis 2013 sont le fait de l'État islamique. Et bien sûr, au cœur de ce moment-là, On a le 13 novembre 2015, qui est un moment particulièrement dramatique et particulièrement violent.
Que paye la France pour avoir subi un tel bilan?
Alors là, c'est les hypothèses. Chacun peut avoir des hypothèses. Hein. Je ne dis pas que cette base de données nous permet de savoir cela, mais on peut réfléchir ensemble.
Mettons les faits en face des chiffres et de ce constat que vous venez d'établir.
Je crois qu'on peut dire que la France paye, en quelque sorte, sa capacité à intervenir dans le monde. Il n'y a pas beaucoup de démocraties qui ont une capacité à intervenir dans le monde pour essayer de dénouer des conflits ou d'en prévenir d'autres. Il y a les États-Unis, il y a la France, il y a un peu le Royaume-Uni, mais il n'y a pas beaucoup de démocratie capable de le faire. Donc ça, c'est une espèce de conséquence. Je crois qu'il y a aussi un lien compliqué avec l'histoire française et son passé colonial, qui dans certains pays, c'est le cas de l'Algérie, a pu favoriser, je dirais, un terreau de violence qui avait d'autres déterminations, hein, mais qui pouvait aussi se retrouver dans ce lien avec un pays anciennement colonisateur. Donc voilà, il y a une... Et puis la France est un des pays clés de l'espace européen, qui contient aussi dans sa propre population, c'est une caractéristique de la France, une double communauté importante, je dirais, une communauté musulmane nombreuse et une communauté juive qui est également nombreuse, d'où aussi une importation, par exemple, du conflit israélo-palestinien. Or, nous observons qu'il y a une islamisation du conflit israélo-palestinien.
Dominique Régnier, vous restez avec nous. Guillaume Denoy de Saint-Marc, le président de l'Association française des victimes du terrorisme, nous a rejoint il y a quelques instants. On va l'interroger notamment sur cette journée toujours très particulière du 13 novembre, 4 ans après les attentats de Paris et Saint-Denis. On s'interrompt quelques instants pour le rappel de l'actualité à 8h40 avec Mélanie Delaunay.
La ministre de l'Enseignement supérieur condamne fermement les violences et les dégradations. En marge des rassemblements contre la précarité étudiante, 4 jours après l'immolation par le feu d'un jeune homme, des manifestants ont arraché la grille du ministère à Paris. Est-ce qu'il y a nécessité d'acheter une boîte de conserve à minuit? Le secrétaire général de la Fédération CGT du commerce et des services salue sur France Info le recul du gouvernement sur le travail de nuit dans les supérettes et les supermarchés. 6 mois de concertation entre partenaires sociaux pour fixer les modalités. Le dernier film de Roman Polanski sort aujourd'hui dans plus de 500 salles. J'accuse, promotion perturbée après les nouvelles accusations de viol contre le réalisateur. Une quarantaine de féministes ont empêché la tenue d'une avant-première à Paris. Nous sommes en train d'affronter une marée plus qu'exceptionnelle. Le maire de Venise lance un appel à l'aide face à la montée des eaux. Clairement, les effets du changement climatique, dit-il. La marée haute atteint son plus haut niveau depuis un demi-siècle.
France Info. Et tout est plus clair.
40 ans de terrorisme islamiste sur la planète. On a parlé de cette étude que vous avez dirigée, Dominique Régnier, dans votre fondation pour l'innovation politique. Guillaume Denoy de Saint-Marc, le fondateur et directeur de l'Association française des victimes du terrorisme, nous a donc rejoint. Je voudrais d'abord vous demander tout simplement comment les victimes et les rescapés des différentes vagues d'attentats, dont la plus sanglante, celle du 13 novembre 2015, vivent et appréhendent cette journée.
Et que c'est toujours un moment difficile. C'est un moment où, je dirais même, les journées d'avant sont difficiles. Quelquefois, même à leur corps défendant. C'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent qu'ils vont pas bien et comprennent pas que c'est parce qu'on s'approche de la date anniversaire. C'est un passage que chacun vit à sa façon. Certains en préférant rester chez eux, d'autres au contraire en voulant se réunir. Ça réveille un certain nombre de douleurs, et notamment de personnes qui jusqu'ici n'ont pas été soignées ou pas été accompagnées et qui pensaient s'en sortir. Et d'où un certain nombre de personnes qui, à ce moment-là, reviennent vers nous et qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas identifié et qui ont du mal, finalement, à gérer les émotions que ça provoque parce qu'elles ont l'équivalent d'un choc post-traumatique et donc il faut arriver à les accompagner. D'autres, au contraire, c'est aussi un moment où finalement, elles vont avoir un dialogue avec la société pour pouvoir expliquer ce que c'est que le terrorisme, expliquer ce qu'elles ont vécu. Et ça, c'est quelque chose qui, au contraire, peut les amener à appréhender un peu mieux, c'est-à-dire être capacité de verbaliser le vécu. Et voilà, donc c'est très complexe.
Ces souvenirs, ce traumatisme que vous évoquez à l'instant, Guillaume Denoy de Saint-Marc, un des rescapés de l'attentat du Bataclan a témoigné ce matin sur l'antenne de France Info. Il s'appelle Guillaume, il était dans la salle du Bataclan le 13 novembre 2015 et voici comment il vit maintenant depuis 4 ans avec ce souvenir.
des cauchemars, des pensées intrusives. C'est un monstre. Oui, oui, c'est un monstre qui vous envahit le corps, qui vous envahit la tête. N'importe quoi, c'est un bruit de palette qu'un magasinier va décharger, qui peut faire penser à une détonation. Cette espèce de souvenir comme un boulet au pied qui va vous poursuivre tout le temps. C'est pour ça que je l'appelle le monstre. J'ai abandonné toute idée de m'en débarrasser. Je pense pas qu'on puisse s'en débarrasser. J'ai l'espoir de pouvoir vivre avec.
C'était un témoignage ce matin au micro de Benjamin Ely sur France Info. Comment peut-on aider ces rescapés à vivre avec ce monstre, comme le disait Guillaume à l'instant? Est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, 4 ans après, les services de l'État, les services d'indemnisation et puis aussi évidemment les services médicaux sont suffisamment efficaces dans la prise en charge de ces rescapés?
Alors aujourd'hui, le système français, même s'il y a encore des défauts et des améliorations à apporter, est celui qui est le plus efficace au monde. Et c'est sans doute à cause des événements du 13 novembre qu'il y a eu une remise à plat de tout le système d'accompagnement des victimes du terrorisme, d'une part, mais qui a amené aussi à une vraie politique d'accompagnement des victimes en général. C'est-à-dire que ce qui a été fait pour les victimes du terrorisme a permis aussi d'accompagner les autres victimes.
Qu'est-ce qui permet de dire que c'est le système le plus efficace au monde? Comment ça se concrétise?
Ça se concrétise par un certain nombre d'abord par nous, associations de victimes qui sommes impliquées dedans et qui voyons aussi, qui connaissons les besoins des victimes sur le court terme, le moyen terme, le long terme. Et il y a un vrai dispositif d'État qui est mis en place. Nous sommes régulièrement invités à l'étranger pour en parler. J'étais la semaine dernière en Russie pour voir avec les autorités russes comment expliquer le système français accompagné de la délégation interministérielle de l'aide aux victimes et des CUMP. Donc c'est vraiment pour vous montrer un peu à quel point on diffuse ça. On fait un très gros congrès au mois de novembre à Nice. La semaine prochaine, il y a 750 personnes, dont 600 victimes du monde entier qui vont être présentes.
Un congrès mondial. Donc là aussi, c'est une façon de montrer que ce terrorisme islamiste, il a frappé dans le monde entier et que donc les victimes doivent s'entraider, échanger.
Et toutes les victimes de toute forme de terrorisme. Mmh. Parce qu'il y en aura aussi des victimes de Breivik, on a des victimes des suprématistes blancs. Voilà, donc il s'agit en fait d'un accompagnement entre victimes et arriver à mieux expliquer à la société ce par quoi nous passons, quels sont nos besoins, quels sont nos besoins d'être entendus, reconnus, et en même temps voir comment certains d'entre nous ont réussi à apprivoiser le monstre et à vivre avec, et pour pouvoir dire oui, c'est possible de vivre avec, c'est compliqué, c'est pas facile, mais on peut vivre avec et on peut bien vivre avec, et on peut même être dans un engagement très fort. Sur le plan artistique, on le voit avec beaucoup d'écrits qui ont été faits, des œuvres d'art. Voilà, il y a un moyen de refaire vie, de refaire société en intégrant malheureusement le monstre dans notre histoire.
Dominique Régnier, vous vouliez ajouter un mot?
Oui, c'est un mot important à ce sujet parce que dans notre base de données qui est ouverte à chacun, on a répertorié un peu plus de 151 000 blessés documentés, c'est-à-dire moins d'un blessé par victime sur l'ensemble de la période. Or, quand je regarde ce qui s'est passé, par exemple, au Bataclan, le rapport, il est de 1 à 3. Il y a 3 fois plus de blessés.
130 morts et plus de 400 blessés.
Voilà. À Nice, c'est de 1 à 5. À New York, les 4 attentats, c'est de 1 à 5. À Madrid, le 11 mars, ce sera le dernier exemple, c'est de 1 à 10. Dans les pays pauvres, très touchés, on ne s'occupe pas des blessés. Évidemment, on ne les répertorie même pas. Et probablement qu'il y a un nombre considérable de personnes blessées dans les attentats, dans les pays pauvres, qui n'ont pas été soignées, pas répertoriées, qui sans doute aussi en sont des victimes différées.
Guillaume de Saint-Maur, il y a une perspective qui attend les rescapés, les familles des victimes maintenant. C'est le procès des attentats du 13 novembre qui va se tenir, on connaît la date, en 2021, l'instruction est bouclée. Est-ce que ça peut faire partie du travail de très lente reconstruction que vous évoquiez il y a quelques instants?
Oui et non.
Ou est-ce qu'au contraire, ça rouvre toutes les blessures?
Ça fait les deux, mon général. C'est-à-dire qu'à la fois, ça rouvre tout, à la fois, c'est un moment où on à nouveau une introspection et on est à nouveau face au monstre qui, du coup, revit.
Avec à la barre, l'homme qui a
avec à la barre,
participé au commando et qui a survécu, on ne sait pas pourquoi.
Et paradoxalement, le fait de le reverbaliser, de le revivre, est aussi un moyen qui permet sans doute d'avancer. Tout dépendra de comment, dans quelle ambiance se fera le procès. Tout dépendra des conditions de confort, entre guillemets. Quand je dis confort, c'est simplement, est-ce qu'on pourra entendre le procès? Est-ce qu'on pourra être dans la salle et assister au procès? Quand on voit le nombre de parties civiles, ça pose un vrai problème logistique. Donc, ça va être un procès hors norme. Et on travaille déjà avec le ministère de la Justice pour voir comment organiser ce procès pour que qu'il puisse avoir cet effet, je dirais, de justice et de réparation pour les victimes, et que les victimes puissent avoir leur place.
Procès mais... hors norme, est-ce qu'on sait, par exemple, où il aura lieu, dans quelles conditions? Parce que il y aura des centaines et sans doute même également des milliers de parties civiles.
Alors, il faut absolument que ce soit dans un palais de justice, mais il n'y a aucune salle aujourd'hui qui existe qui permettra de le tenir. Donc, il y aura une salle qui va être construite, sans doute dans la salle des pas perdus de l'ancien palais de justice. C'est l'hypothèse que nous avons pour l'instant. Concernant les attentats de janvier 2015, ça va être sans doute dans le nouveau palais de justice, puisqu'il y a des salles beaucoup plus grandes, avec une très bonne acoustique qui permettrait de le tenir. Et on va voir un petit peu... Voilà, il faut trouver le moyen que ça reste un lieu de justice et en même temps que les conditions matérielles permettent au procès de se tenir correctement.
Et pour les victimes, il y a encore beaucoup de zones d'ombre à éclaircir, beaucoup de choses à comprendre dans la mécanique de ces attentats du 13 novembre.
Alors oui, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup de victimes qui s'intéressent au dossier d'instruction, d'autres qui ne s'intéressent pas du tout. Donc le niveau de connaissance des faits est très variable selon les victimes, parce que simplement c'est trop violent. Moi, je me rappelle très bien que dans mon propre attentat, j'arrivais pas à le lire, le dossier d'instruction. Il y avait un refus. Je préférais qu'on me raconte, avoir une distance par rapport à l'événement, parce que c'est trop douloureux. Les moments où il y a ce procès va être peut-être un moment où il y aura des révélations qui vont être faites pour certaines de victimes qui n'ont jusqu'ici pas trop voulu savoir. Et le fait que ça va forcément être très médiatisé, ça va être très long. On parle de 6 mois de procès. Ça va être un moment très difficile à vivre.
Et Dominique Régnier, ce procès, justement, il doit permettre de mieux comprendre la mécanique de ces attentats islamistes. Procès du 13 novembre.
J'imagine qu'il y aura un progrès de la connaissance. J'imagine que l'instruction a déjà fourni des informations utiles pour prévenir ce type de violence. Mais il faut juste rappeler que la base de données que nous avons construite nous permet de voir que depuis 2013, les personnes qui meurent dans le monde à cause d'un attentat, toutes catégories confondues, pour la première fois en 40 ans en tout cas, meurent principalement d'attentats islamistes. 63% des morts par attentat depuis 2013 sont des morts par attentat islamiste, qu'il y a une intensification de la violence qui est très impressionnante, que l'État islamique et Boko Haram sont deux des 5 plus violentes organisations. On en a identifié 5 qui représentent 80% des victimes que nous avons évoquées tout à l'heure. Et donc, il y a quand même une espèce de montée en puissance qui semble...
Il a pris le pas sur les autres formes de terrorisme très nettement.
Et c'est nouveau. Ouais. Et c'est nouveau. C'est depuis 2013, ça c'est nouveau.
Hein. Il y a une forme d'international terroriste.
Alors, il y a une forme internationale. Il y a des franchises. Hein. Vous avez des unités qui se constituent un peu partout, qui se revendiquent de la même marque, en quelque sorte. Ça a été vrai pour Al-Qaïda, c'est vrai aussi pour l'État islamique et c'est vrai aussi pour Boko Haram. Donc une espèce de diffusion, dissémination et la pratique massive de l'attentat suicide, qui est aussi une des caractéristiques nouvelles, dont la morbidité est évidemment beaucoup plus importante. Et c'est aussi pour ça qu'on a un nombre, on a fait un calcul qui est absolument sinistre, j'en suis navré, mais on a pu calculer par voie de conséquence le nombre de morts par attentat. Et on voit que non seulement ils sont plus nombreux, mais ils sont aussi plus violents, notamment par les attentats suicides.
On va évoquer dans quelques instants la question du retour des djihadistes en France, puisque la Turquie a annoncé ces dernières heures qu'elle allait renvoyer 11 djihadistes et leurs familles ici, des personnes qui ont été arrêtées en Irak ou en Syrie ces dernières années. Mais d'abord à 8h51, Mélanie Delaunay pour le rappel de l'actualité.
Le projet de loi pour ouvrir les commerces alimentaires jusqu'à minuit est repoussé. Le directeur général de l'Alliance du commerce réagit sur France Info à la concertation de 6 mois annoncée par le gouvernement entre syndicats et patronats. Il espère que ce n'est pas une nouvelle occasion de reporter le sujet. La précarité tue, cette phrase taguée sur les murs du ministère de l'Enseignement supérieur, une grille arrachée en marge d'une manifestation contre la précarité étudiante, rassemblement dans plusieurs villes après l'immolation par le feu d'un étudiant à Lyon. Des échanges tendus entre des féministes et des spectateurs qui veulent dissocier l'homme du réalisateur, une avant-première de J'accuse, le nouveau film de Roman Polanski, empêché dans un cinéma parisien, alors que le réalisateur est visé par de nouvelles accusations de viol. Aux États-Unis, 2 diplomates face au Congrès, première audition publique aujourd'hui en direct à la télévision dans l'enquête menée par les démocrates pour destituer le président américain.
France Info. Et tout est plus clair.
Toujours avec le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, Dominique Régnier, et avec le directeur de l'Association française des victimes de terrorisme, Guillaume Denoy de Saint-Marc. La question justement du retour des djihadistes en France, est-ce que c'est le principal défi aujourd'hui qui vous inquiète et qui nous menace ?
Je dirais que notre association, depuis le début, demande à ce que ces personnes soient ramenées en France parce qu'on pensait bien que les laisser là-bas était vraiment une mauvaise solution, une solution un peu de déni de réalité. Et qu'il faut absolument qu'on les ait sous la main, qu'ils soient judiciarisés et qu'on puisse essayer de contrôler le phénomène. Là, on est un peu mis dos au mur avec l'envoi de ces djihadistes. On sait s'en occuper, enfin de façon la moins mauvaise possible. Ça va être un défi énorme qui nous attend, qui est de savoir comment intégrer tous ces enfants qui sont traumatisés, qui ont vécu des choses, voire ont commis des actes de violents, voir comment on peut s'occuper de toutes ces femmes qui n'étaient pas des combattantes et voir de quelle manière on peut les réinsérer dans la société, comment on va réintégrer les femmes combattantes aussi. Et concernant les hommes, là aussi, il y a un vrai défi, à la fois judiciaire, parce qu'il va falloir prouver ce qu'ils ont fait ou pas sur zone, et ça, on n'a pas les éléments pour le faire. Heureusement qu'il y a déjà le délit d'être parti, qui va permettre de pouvoir les judiciariser dès leur retour. Mais comme on est attaché à la justice, il va falloir vraiment, au cas par cas, essayer de déterminer qui sont ceux qui sont dangereux, quels sont ceux qui ont commis des crimes et les autres.
Renaud Dely. Comment vous expliquez-vous, Guillaume Denoy de Saint-Marc, ce déni, c'est le mot que vous avez employé, du gouvernement sur cette question des djihadistes français rapatriés ? Est-ce que c'est une peur des réactions de l'opinion ? Et qu'est-ce que vous dites, vous, en tant que représentant d'une association de victimes, justement, à l'opinion sur la nécessité, selon vous, de les rapatrier pour les juger en France?
Alors, je pense qu'effectivement, il y a eu une peur de la réaction du public, parce que personne ne souhaitait que ces personnes-là reviennent. Il faut qu'elles reviennent pour plusieurs raisons. La première, c'est ça par rapport à nos principes de droits de l'homme. On ne peut pas ressembler à des terroristes en bafouant les droits de l'homme. Donc, il faut que nous les respections, parce qu'il s'agit de reconsolider nos valeurs. Et ensuite, sur un aspect pragmatique, et on le voit bien, le fait de ne pas les avoir rapatriés à temps fait qu'aujourd'hui, certains sont en liberté, certains nous ont échappé. Parlant des enfants, ces enfants-là sont français, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Sont traumatisés, ont vécu des choses très violentes. S'ils ne sont pas accompagnés sur un plan social, psychologique et médical, ces enfants, un jour, deviendront des djihadistes qui nous frapperont. Le seul moyen d'arriver à endiguer, si possible, le problème, c'est d'arriver à aller s'occuper d'eux, en espérant en sauver un certain nombre. Mais on réduit le danger en s'en occupant, alors que si on ne s'en occupe pas, le danger est imminent.
Dominique Régnier, je voudrais qu'on s'arrête, il nous reste un peu moins de 2 minutes, sur un autre volet de votre étude. Vous établissez un lien, vous allez nous expliquer lequel, entre les attentats islamistes et la montée de certaines formes de populisme, en tout cas de droite et d'extrême droite. Expliquez-nous.
Quand on regarde l'évolution, là encore, des courbes que permet de dessiner ce type de base de données, on s'aperçoit que ça correspond assez bien à la poussée du vote populiste en Europe.
Dans quel pays, par exemple ?
L'Allemagne, bien sûr la France, bien sûr l'Italie, bien sûr la Hongrie, la Pologne. Enfin, malheureusement, la liste est longue aujourd'hui. Les Pays-Bas ont été les premiers à être en réaction avec le 11 septembre. Cette fois-ci, nous étions les seconds le 21 avril 2002. On voit bien les relations entre ces poussées de violence islamiste et la poussée du vote populiste.
C'est-à-dire que ça provoque un réflexe sécuritaire ?
Réflexe sécuritaire et d'une manière générale, l'autre grande victime de cette violence djihadiste, ce sont nos démocraties, parce que les États de droit sont évidemment interpellés par des citoyens qui souhaitent plus de fermeté, voire plus de violence étatique, parce que nous rentrons dans des sociétés de surveillance et de contrôle. Pour venir ici, comme tout le monde, j'ai passé un contrôle de sécurité. Nous nous y habituons, mais nos sociétés se referment, deviennent beaucoup plus hermétiques et surveillent presque sans cesse désormais. Nous allons doucement vers ce qu'on pourrait appeler, si j'étais un peu rapide, une démocratie illibérale. Nous y sommes tous un petit peu amenés.
Mais justement, Dominique Régnier, lors de l'hommage aux victimes de l'attentat de la préfecture de police de Paris, Emmanuel Macron a appelé à bâtir une société de vigilance pour éradiquer l'hydre islamiste. Ce sont ses mots. Ça participe de cette dérive que vous évoquiez à l'instant, société de vigilance.
J'ai trouvé que c'était un discours qui posait une question très pertinente, qui est la suivante. avons-nous la capacité, supposons-le budgétaire, mais avons-nous la capacité de monter encore le niveau de surveillance policière, je veux dire du point de vue de l'état de droit? Que serait notre société si nous augmentions encore la surveillance policière, les écoutes téléphoniques, les filatures, le traçage sur le net, etc. Est-ce qu'une des solutions pour se prévenir, c'est pas plus de solidarité, plus de vigilance sans doute, entre citoyens pour se prémunir mutuellement d'un danger? Est-ce qu'il n'y a pas une implication nécessaire de la société? C'est un peu le choix entre la solidarité et l'État plus policier.
Et Guillaume Denoy de Saint-Marc acquiesce à vos propos. Malheureusement, j'aurais pas le temps de vous redonner la parole. Mais merci à tous les deux, merci Dominique Marc Régnier. Guillaume Denoy de Saint-Marc, bienvenue ce merci. Matin sur le plateau de France Info. Dans deux minutes, il sera 9h.
Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info. Paris, la bataille, le feuilleton des municipales. Un nouvel épisode tous les vendredis. Un podcast à écouter sur franceinfo.fr. Disponible aussi sur l'application Radio France.